Voilà, c'est important aussi de remettre en perspective les objectifs, hein, aujourd'hui et demain surtout. En 2050, là on est parti pour toute une dynamique, et une dynamique pour pouvoir diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, hein, GES, et de consacrer aux énergies renouvelables 20 à 25%. Voilà, la conférence de Copenhague, c'est un demi-échec, demi-succès, mais n'empêche qu'il y a eu une adoption quasi internationale, y compris des des pays émergents, pour être sous la barre des 2 degrés. Voilà, et puis ça a engagé, bien sûr, un débat entre industriels à propos du prix du carbone, et ça, on en entendra bientôt parler. Et bon, finalement, plus localement, là en France, les 2 grandes dates du calendrier, c'est le Grenelle 2001 qui est en marche, qui a été voté, et dans très très prochainement le 10 mai, au Parlement, va entrer entre les députés le débat sur le Grenelle 2. Le Grenelle 2, c'est la mise en musique des lois qui ont été adoptées pour le Grenelle 1, c'est-à-dire, finalement, comment on fait pour pouvoir mettre en application d'une façon très concrète sur le terrain cette loi. Voilà. Bon, une petite précision dont on a parlé avec Denis ce matin et qui finalement se visualise et devient très très concret aujourd'hui à propos des bâtiments basse consommation. Vous vous souvenez de cette terminologie BBC, bâtiment basse consommation, hein, on peut l'utiliser pour une maison ancienne comme pour une maison neuve. Hein, et que l'on. Ce diagramme, vous l'avez obligatoirement lorsque vous vendez votre maison. Ou lorsque vous en louez une, vous devez avoir ce diagramme, qui est à la charge du vendeur. Voilà. Et toutes les normes aujourd'hui, elles doivent permettre de réunir toutes les conditions pour pouvoir passer de la zone rouge à la zone la plus verte. Sachant qu'aujourd'hui, l'objectif de ce qu'on appelle la RT 2012 et à la réglementation thermique de 2012, on doit arriver à la note A. Une maison qui consommera 55 kWh mètre carré, eh bien, elle n'aura pas vraiment le label. Hein, donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est véritablement d'aller vers la performance maximum. Et c'est pour ça, Tony en a parlé ce matin, que la maison passive est un objectif qui est de plus en plus recherché par beaucoup. Et, de façon utile, la maison à autonomie d'énergie. Voilà, donc, rappel de façon beaucoup plus précise sur l'énergie du chauffage. Aujourd'hui, voilà par où elle passe. Les déperditions. Donc là, j'ai reparti 2 chiffres. Il y a le premier chiffre, 25 à 30%, et puis vous avez 2 petits losanges avec 4%. Alors ce chiffre que j'ai mis tout à fait à droite, c'est simplement parce que si on a le temps, on va passer en revue l'exemple d'une maison du 18e siècle et de savoir comment ces chiffres-là, quand on les extrapole sur une maison ancienne, à combien ça revient. Mais ça, c'est une moyenne nationale. Vous voyez que les écarts sont très importants. Hein, pourquoi est-ce qu'on isole le toit en premier? Parce que les déperditions sont énormes. Près d'un tiers. Et le renouvellement de l'air, 20 à 25%. D'où l'idée de toujours avoir une démarche d'isolation, mais en même temps de renouvellement de l'air par les systèmes de VMC, ventilation mécanique contrôlée. Alors vous voyez, là, c'est l'exemple. Les planchers bas, vides, sanitaires et sous-sols sont en moyenne de 7 à 10% de déperdition d'énergie. Mais dans une maison ancienne du 18e, elles sont de 39%. Vous voyez, des écarts énormes. Voilà, alors commençons par le début. Étant donné qu'aucune de nos maisons sont identiques, qu'elles soient construites avant 1975 ou qu'elles soient du 18e siècle ou même du 12e, aujourd'hui, on ne peut pas. La démarche la plus rationnelle, celle que beaucoup de professionnels vous conseillent, avant de lancer des devis, c'est de savoir quelles sont les faiblesses de votre maison en termes d'efficacité énergétique et donc de déperdition d'énergie. C'est pour ça qu'on recommande de faire un bilan thermique ou un DPE. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Et le petit schéma multicolore de rouge aux zones vertes que vous avez vu dans l'image précédente. Voilà. C'est, aujourd'hui, on parle beaucoup dans les médias de tout ce business qui est en train de graviter autour des bâtiments à rénover parce que les gens sont là pour harceler, pour vendre des pompes à chaleur, des solutions de photovoltaïques, et pourquoi pas une chaudière à bois. Il n'y a finalement aucune solution idéale. Il y a toujours une solution adaptée à sa maison. Parce qu'elle n'est jamais identique, elle n'a jamais le même âge, elle n'est jamais orientée de la même façon, elle n'est jamais dans la même région. Voilà. Et puis souvent, elle n'est pas entretenue de la même façon. Voilà. Et donc j'insisterai sur le fait que le bilan thermique, il permet de chiffrer les économies qu'on peut avoir. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir chiffrer, d'abord d'identifier les faiblesses du bâtiment, les déperditions, où sont-elles exactement. Avec la caméra thermique, on arrive à savoir exactement les points de faiblesse qu'il y a.
Qu'est-ce que c'est une caméra thermique?
C'est un appareil numérique qui permet de visualiser la température d'une surface et de pouvoir l'enregistrer. Et en même temps, en fonction de la couleur, ben vous avez justement la différence. La caméra thermique, elle va permettre de montrer une malfaçon ici, comparativement à un autre endroit où il n'y en a pas. Hein, et aujourd'hui, pour sensibiliser le public à l'efficacité énergétique des bâtiments, beaucoup de régions ont mis en place des thermographies aériennes, c'est-à-dire une caméra thermique qui, sur un vol par hélicoptère, vol au-dessus d'une agglomération. Ça a été fait à Limoges en 2009 et à Brive l'année dernière pour pouvoir justement identifier les maisons qui étaient mal isolées et les quartiers qui l'étaient plus ou moins.
C'est accessible par Internet, ces images?
Oui, tout à fait. Oui. Et en tout cas, si ces thermographies aériennes communales ont été faites sur votre ville, hein, que ce soit des villes importantes, finalement, et bien ces documents sont à disposition à la commune. Voilà, et généralement, ils vous sollicitent pour en prendre connaissance. Bon, une petite une faible façon de. On va tout de suite pouvoir vivre concrètement tout à l'heure chez ce négoce de matériaux qui va nous recevoir tout à l'heure. C'est important d'avoir un peu de classifier les différents isolants. Alors ça paraît naturel, le chanvre, bon, c'est d'origine végétale, mais c'est intéressant de bien le distinguer des isolants de laine minérale et des isolants synthétiques. Ça, c'est les grandes familles. Bon, là, on entre un petit peu dans la technique et bon. Le présentateur tout à l'heure pourra, avec le chanvre et avec le liège, pouvoir faire l'équation pour pouvoir évaluer. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de label, il y a une multitude de labels aujourd'hui à propos des matériaux isolants et pas beaucoup sur les matériaux naturels. Et c'est important de savoir que le R, et le critère qui est choisi par l'ADEME et qui détermine l'éligibilité des matériaux dont la performance est suffisante pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro. Voilà. L'autre moyen de mesure est l'EU et le coefficient de transmission thermique qui qualifie la performance des parois vitrées. Hein, sachant que la résistance, donc, c'est, comme son nom l'indique, c'est de véritablement faire barrage, alors que l'U, c'est le contraire. Donc, c'est justement ce rapport-là qui permet de calculer l'épaisseur d'isolant qu'il vous faut par rapport à la performance que vous voulez obtenir. Sachant que entre 5 et 8, aujourd'hui, c'est le R performant qu'il faut obtenir. Entre 5 et 8. J'invite Isabelle à intervenir si elle veut compléter ce que je dis à propos de. Voilà, donc là, on a une liste. Est-ce que tout le monde voit bien un tableau comparatif des isolants. Donc là, on peut se pencher dessus. C'est, je dirais, un tableau un peu emblématique qui permet de bien connaître chacun des matériaux, connaître leur lambda, ici, c'est-à-dire l'unité de mesure de conductivité, le R, dont on vient de parler, hein, et qui est justement ce critère de résistance thermique, et quelques fabricants pour chacun d'entre eux. Et là, vous avez justement, lorsqu'on a fait le calcul, on obtient l'épaisseur voulue. C'est ça qui est intéressant avec les architectes et les négoces de matériaux, c'est que quand vous allez le voir, il peut calculer l'épaisseur dont vous avez besoin selon le R que vous voulez obtenir. Voilà, vous avez vu la paille et a été jaunie parce que c'est justement un fournisseur de paille qui a fait ce tableau comparatif.
Le bois massif, le lambda.
Alors, le bois massif. Fibre de bois, 30.
Non, le bois massif.
Ah, le bois massif, c'est intéressant de savoir.
C'est
0,1. À noter et à compléter. Pour le bois, c'est 0,1. Alors ça c'est intéressant là, c'est justement les prix. Hein. Il y a des écarts.
Jérôme,
oui.
À préciser quand même que les valeurs sont s'il n'y a pas du tout d'humidité dans le matériau isolant. Parce que la laine de verre est bien marquée en premier, si elle a un tout petit peu d'humidité, elle s'effondre. Et ce qui ne serait pas le cas des isolants végétaux.
C'est vrai,
des chiffres assez abstraits et des chiffres de laboratoire qui ne tiennent pas compte forcément des réalités de terrain.
C'est pour ça que j'ai fait ce tableau là auparavant où il y avait les 5 familles d'isolants naturels, synthétiques, bois, parce que justement ils ont des propriétés qui font qu'ils résistent à l'humidité naturellement ou pas. Alors voilà les tarifs moyens aujourd'hui relevés en 2009, hein, par mètre carré. Donc la laine de verre, on s'aperçoit, le double de la paille. La brique monomure, 105, bon c'est peut-être pas... C'est un repère hein, d'avoir la brique monomure, parce que la brique monomure, c'est un matériau de construction. Qui a des pouvoirs d'isolant, mais qui sont insuffisants. Mais bon, c'était bien de pouvoir le mettre en parallèle. Béton de champ, 130. Laine de mouton, 33 mètres carrés. Boîte de cellulose, 24.
Il n'y a pas le chambre. Il n'y a pas le chambre.
Le champ, on n'y est pas. Il n'y a pas le champ. Il y a le béton de chambre et ça, c'est très, très, très différent.